L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Ça y est, on est en octobre. Mardi 1er octobre 2019, bon matin. Il est 5h, bienvenue dans l'amorce. Encore assez frais à l'extérieur, pas si mal, remarquez. Ça va descendre pas mal plus que ça cette semaine. Vraiment, l'automne qui s'installe dans ses pantoufles cette semaine côté météo. Hein. On a eu droit quand même à un petit regain des températures dans les dernières semaines. On a eu des belles journées. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est quand même amélioré un petit peu côté prévision météo par rapport à ce que je vous mentionnais hier. Hier, je vous parlais d'une semaine grise du début à la fin avec de la pluie à peu près à tous les jours. Là, ça s'est un petit peu calmé. Fait qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour vous. C'est le fun de vous dire ça en début de journée comme ça. D'abord, aujourd'hui, mardi 1er octobre, c'est un maximum de 10 degrés qui est prévu avec de la pluie intermittente. Les températures vont être autour de 10 degrés avec des nuages à peu près toute la journée. Demain, mercredi, c'est là que ça s'améliore un petit peu. On est passé d'une journée de pluie à une journée avec des possibilités d'averses, alternance de soleil et de nuages. Donc, généralement nuageux, mais quelques percées de soleil pour mercredi. Jeudi, maximum de 10. Alternance de soleil et nuages. Notez que les températures montent plus très très haut. Là. Les normales sont au-dessus de ça en fait. En général, là, vous devriez atteindre autour de 14 degrés pendant la journée, puis descendre à peu près à 5 la nuit. Là, on monte seulement à 10-12 degrés maximum, donc c'est assez frais. Donc jeudi, alternance de soleil et nuages avec 10. Vendredi, maximum de 12 avec 60% de risque d'averse. Et dans les nuits, à partir de cette nuit, entre cette nuit et la nuit et demain matin, pardon, c'est 7 degrés minimum, et par la suite, entre mercredi et jeudi, on descend à 1. Donc, ça commence à être pas mal froid et on va commencer à parler de risque de gel au sol, c'est certain. Pour le moment, 9 degrés à Québec, donc relativement agréable pour commencer la journée. Vous savez, on est en pleine campagne électorale fédérale et à chaque matin, j'essaie de vous faire un tour d'horizon de ce qui se passe, mais je vais vous avouer que c'est franchement pas excitant comme campagne électorale. Je vais quand même vous donner deux, trois petites affaires là, que j'ai remarquées dans la journée d'hier, mais il n'y a pas vraiment de gros buzz autour de la campagne électorale fédérale, en tout cas au Québec. Là. Peut-être remarquer qu'à partir de demain, ça va changer un peu parce que demain, il y a un débat des chefs, le face-à-face de TVA, où est-ce que les principaux chefs vont être présents. Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jack Meeting et Elizabeth May qui vont s'affronter dans un mode duel, un débat en duel. Donc peut-être que ça va amener sur la table des enjeux qui vont faire lever un peu cette campagne-là. Mais pour le moment, là, vraiment, c'est rien de décroissant. C'est pas Elizabeth May, pardon, je me suis trompé, c'est Yves-François Blanchet. Elizabeth May n'est pas là pour le face-à-face. Donc c'est vraiment les quatre principaux partis au Québec là, qui sont présents demain soir pour le face-à-face de TVA. Et donc, peut-être que ça va faire lever la campagne un peu au Québec, mais pour le moment, c'est tranquille. J'attire quand même votre attention sur un sondage Main Street dans le soleil. Ça fait quelques circonscriptions dans la région qui passent au peigne fin via des sondages. Il y en a une qui est assez serrée. Là. On dit que ça risque d'être un océan conservateur parce que présentement, ça l'est beaucoup, avec seulement les deux députés libéraux fédéraux là, du côté de Louis Hébert puis Québec. Mais dans Beauport-Limoilou, c'est loin d'être joué. Présentement, c'est le député Alupa Clark, qui est un conservateur, qui est en poste, qui est le député sortant. Et si on regarde les chiffres, les prévisions du sondage, Alupa Clark, présentement, obtiendrait 32% des intentions de vote. Et juste derrière, vous avez le candidat libéral Antoine Bugeaud. Donc, c'est loin d'être joué encore pour M. Clark dans Beauport-Limoilou. Il pourrait y avoir donc quelques luttes qui font en sorte que ce sera pas plate le soir du 21 octobre dans la région de Québec. Autre élément lié avec la campagne électorale, hier, il y a une sortie des maires de l'agglomération, là, les maires de Québec, Stoneham, Tewksbury, Lac-de-Lage, qui se sont rassemblés pour demander 200 millions de dollars au gouvernement fédéral. Pourquoi? Pour la préservation du lac Saint-Charles, c'est Régis Labeaume qui a mené la charge un peu, qui a sonné la charge pour cet enjeu-là, en disant que c'était vraiment une urgence environnementale. Il a fait référence aux manifestations de vendredi dernier, mais en disant que, en raison de l'activité humaine aux alentours des bassins versants du lac Saint-Charles, ben, l'eau était de moins bonne qualité, il y avait différents produits qui se retrouvaient dedans. Ça fait en sorte qu'il faut vraiment le protéger. Et donc, les maires de Stoneham-Tewksbury, Lac-de-Lage et Québec réclament au fédéral une somme de 200 millions qui serait étalée sur 10 ans, qui servirait bon à la préservation de l'eau, comme je vous l'ai mentionné, mais aussi à entretenir tout ce qui est équipement de traitement des eaux, faux septiques et autres de la part des municipalités. Sinon, honnêtement, dans la campagne électorale, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ça. c'est vraiment tranquille, je vous dis, là, promesses par-ci par-là, des prises de bec un petit peu. Par exemple, parmi les prises de bec, mais c'est symbolique, là, on s'entend, là. Il y a une prise de bec entre le Bloc québécois et les conservateurs hier sur la rive sud quant à la politisation du troisième lien. Le Bloc québécois dit que c'est pas un enjeu fédéral, c'est un enjeu provincial, puis les conservateurs disent que c'est un enjeu fédéral aussi. Donc, vous voyez un peu que présentement, dans la campagne électorale, c'est assez tranquille. On va se concentrer sur d'autres choses dans l'actualité. Il y a quand même pas mal de faits divers et d'affaires judiciaires sur lesquelles je veux m'attarder. D'abord, c'était très attendu, ça, à Montréal, mais c'est le début des procédures judiciaires là, pour concernant Éric Salvay, l'ex-animateur de télé déchu, qui était de passage pour subir son enquête préliminaire, donc l'étape avant le procès, où est-ce que la couronne teste sa preuve pour s'assurer qu'il y a matière à procès. Et c'était hier le témoignage de la victime présumée, parce que vous savez qu'une victime présumée qui a porté plainte et qui est sortie dans les médias aussi, donc on connaît son identité, on peut vous la nommer, il s'appelle Donald Duguay, et lui aurait vécu une agression sexuelle, une séquestration, du harcèlement également, en 1993. Il y a peu de détails que je peux vous donner sur son témoignage ce matin, parce qu'il y a un interdit de publication. Donc tout ce que je peux vous rapporter, c'est que pendant plusieurs heures, il a témoigné, il a raconté ce qu'il aurait vécu. Éric Salvay était présent dans la salle, et au sortir de la salle de cours, Donald Duguay avait ceci à dire aux journalistes.
J'ai l'avantage d'être myope. Donc, je n'avais pas vu ses mimiques faciales. Pour moi, ça m'a permis de me concentrer à livrer mon témoignage pour M. Jules.
Ça donne l'exemple qu'on peut se tenir debout et qu'on n'a pas à avoir honte lorsqu'on est victime. Si ça peut inspirer d'autres personnes, tant mieux. J'ai livré ma version à la justice et c'est à la justice maintenant de faire son travail.
Oui, quand tu parles de sa myopie, c'est vrai que ça prend du courage quand on se sent lésé, agressé par quelqu'un, qu'on a vécu quelque chose, ou aurait, je parle de conditionnel, là, et qu'on doit témoigner pendant plusieurs heures en présence de son présumé agresseur. Ça doit être très difficile de devoir affronter son regard. Donc, effectivement, de ne pas voir tout à fait clairement, ça doit aider le processus, en quelque sorte. C'est pas terminé, en passant, l'enquête préliminaire. Il y a d'autres témoins qui sont attendus. Là, c'est plusieurs heures. Par la suite, il y aura le procès qui va suivre son cours si on juge que la preuve de la couronne est suffisante. On change de registre un peu. On va revenir dans des faits divers en passant parce que à Québec, il s'est passé pas mal de choses dans les dernières heures, les derniers jours, côté faits divers. Mais je veux attirer votre attention sur la une du Journal de Québec ce matin. 200 pharmaciens sous enquête. Les informations personnelles de leurs patients ont été marchandées. C'est le bureau d'enquête de Québécois qui a travaillé là-dessus. Grosso modo, il y aurait 200 pharmaciens qui sont présentement enquêtés par le syndic de l'Ordre des pharmaciens parce qu'ils auraient fait affaire avec une firme de médicaments génériques et leur aurait laissé avoir accès aux données de leurs patients. Donc, toutes les données médicaments, assurances de leurs patients que vous avez aussi avec votre pharmacie avec laquelle vous faites affaire auraient été rendues accessibles à la firme Angita Pharma. Il y a des dizaines de patients qui ont été dont les données ont été compromises auprès de cette firme-là. Et cette firme-là se serait servie des accès pour identifier des patients qui ont une assurance privée et prioriser la vente de leurs propres médicaments génériques, ce qui fait en sorte que ça leur permet vraiment de cibler une clientèle. C'est pas quelque chose qui est permis au code de déontologie des pharmaciens. Là, je vous cite quelques articles du code. Article 62, le pharmacien doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de la pharmacie. Il doit notamment éviter de révéler qu'une personne a fait appel à ses services. Et article 67, le pharmacien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle ou préjudice d'un patient ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou autrui. Et là, c'est là vraiment que ça achoppe, là. L'avantage pour lui-même, parce que vous vous doutez que il y a bien une raison pour laquelle ces pharmaciens-là auraient fait affaire avec Angita Pharma puis auraient donné des données confidentielles, c'est qu'il y a des ristournes en lien avec la vente de ces médicaments-là. Et pour cette firme-là, Angita Pharma, les ristournes versées aux pharmaciens qui vendent leurs produits pourraient s'élever entre 30 et 70 % de la valeur d'un médicament. Imaginez. Et d'habitude, ce qu'on dit, c'est que la plupart des compagnies sont autour de 15 %. Donc, c'est très, très, très payant. Dans l'article, on dit qu'il y a une source proche du dossier qui affirme que un pharmacien qui vend beaucoup peut aller chercher jusqu'à 100 000 $ de ristourne chez une compagnie comme Angita Pharma. Donc, c'est une chose de savoir que nos données peuvent fuiter dans des institutions financières, peuvent être piratées par des gens avec des intentions malveillantes, que ce soit à l'intérieur d'une compagnie ou autre, mais de réaliser que des gens qui sont dans le domaine de la santé et donc font affaire dans une certaine mesure avec des personnes dans une forme de vulnérabilité, là, on s'entend, là. Quand on va chercher des médicaments, ben, c'est pour se soigner de quelque chose, mais quand on fait affaire au système de santé, on prête flanc un peu plus, on est un peu plus fragile, j'ai l'impression que dans d'autres situations, c'est drôlement inquiétant. Et puis, c'est pas une situation qui est arrivée à une reprise. On a vu dans quelques cas des pharmaciens, un pharmacien se retrouver dans une situation où est-ce qu'il aurait fait quelque chose de croche. 200 pharmaciens, un peu partout au Québec, qui auraient livré comme ça en pâture vos données à une compagnie pour se mettre de l'argent dans les poches. C'est franchement révoltant de penser que ça se fait. Bon, on va laisser évidemment l'enquête suivre son cours. Le syndic qui est là-dessus. Et évidemment, ils sont un peu jetés à terre de réaliser à quel point il y a plusieurs de leurs membres qui auraient versé dans de telles pratiques. Donc, 200 pharmaciens sous enquête présentement pour avoir livré les informations personnelles de leurs patients pour de l'argent à une firme de médicaments qui réussit comme ça à vendre plus leurs médicaments. C'est aberrant que de telles choses puissent se produire. Je vous ai dit qu'on s'attarderait sur quelques faits divers à Québec. Il y en a plusieurs qui ont retenu notre attention dans les dernières heures. D'abord, je reviens sur une histoire dont on a parlé hier matin dans Bouchard en parle et qui a retenu beaucoup l'attention en matinée. C'est celle de deux hommes qui ont été sauvegardés, rescapés par la garde côtière et l'escouade nautique des pompiers de Québec hier matin dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur à peu près du quai des Croisières. Le premier, c'était dans le coin du quai 21. L'autre, c'était plus à la hauteur de la côte de Sillery. Et ces deux personnes qui ont été repêchées avec leur veste de flottaison, ce qui fait en sorte que beaucoup de gens se questionnaient qui étaient ces gens-là et pourquoi ils se sont retrouvés à l'eau. On n'a pas encore des réponses officielles. On sait que ce seraient des employés d'un navire de croisière, le Celebrity Summit, qui était à quai hier et qui serait reparti en après-midi. Là. Ce seraient des employés, et selon plusieurs informations, puis nous, on en avait reçu au FM 93 le matin même, de la part de témoins. Et également dans les journaux ce matin, dans le Journal du Québec et dans Le Soleil, on corrobore un peu ces informations-là. Ce serait une tentative d'immigration irrégulière ou clandestine. Donc des gens qui auraient souhaité toucher terre, donc arriver sur la terre canadienne pour faire une demande d'asile, une demande de réfugié, pouvant pas la faire sur le bateau, serait sauté à l'eau, imaginez, pour parvenir à effectuer cette demande-là. Sinon, on a peu de détails, on n'a pas de confirmation exacte. C'est vraiment une hypothèse pour le moment, mais la police ne veut pas la confirmer. Affirme qu'elle est toujours en procédure d'enquête. Les informations qui ont été recueillies, notamment par TVA Nouvelles, c'est que ce seraient des gens qui seraient originaires du Zimbabwe et des Émirats Arabes Unis, donc pas des gens qui seraient en provenance du bateau en question, parce que le bateau vient de l'île de Malte. Là, je pense que il était en partance de l'île de Malte, le navire de croisière Celebrity Summit. Donc, c'est sûr que pour le moment, on n'a pas encore toutes les informations en lien avec les motivations de ces deux hommes-là et pourquoi ils se sont retrouvés à l'eau. Et l'autre élément, l'autre triste événement dans les faits divers dont je veux vous parler, c'est un meurtre. C'est le cinquième de l'année à Québec, dans Saint-Sauveur. C'est hier après-midi. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas, c'est dans un immeuble connu des policiers que ça s'est déroulé. C'est un endroit où il y avait déjà eu une intervention policière pour agression le 18 septembre. Un homme d'une trentaine d'années qui avait été agressé devant l'immeuble du 607 rue Napoléon dans Saint-Sauveur. C'est un monsieur qui avait été blessé à la tête aux jambes, qui saignait dans la voie publique. La police était intervenue, bien entendu. Et c'est un appartement qui apparemment brasse. Où est-ce que ça s'est déroulé? Mais donc hier, vers 15h, la police était intervenue. Et ils ont trouvé la dépouille d'un homme dans la quarantaine. Ils ont réussi à appréhender deux personnes qui sont pas encore en état d'arrestation. Et c'est quelqu'un, donc la personne qui a été retrouvée décédée, c'est quelqu'un qui portait des marques de blessures sur son corps. Donc la thèse de l'homicide, c'est celle qui est explorée pour le moment. On dit que c'est pas la même victime, par contre, que le 18 septembre. C'est une autre personne qui a perdu la vie hier dans cet homicide, dans ce possible homicide. Évidemment, comme je vous le dis, on a interrogé les voisins qui disent ça brasse pas mal. Il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de bruit. C'est un appartement qui est un peu douteux en termes de fréquentation. Et ce qui est triste, c'est que cette année, c'est quand même le cinquième meurtre à Québec. Là, vous allez dire, bon, pour une ville de cette ampleur-là, c'est quand même pas beaucoup, mais il y a quand même des années, je pense dans les années 2011-2012, où est-ce qu'il y a eu carrément aucun meurtre à Québec, là. Mais pendant, c'était une période d'un an et demi, je pense, qu'il n'y a pas eu de meurtre à Québec. Donc 5 quand même, c'est pour Québec, qui est une ville extrêmement paisible. C'est quand même un chiffre relativement élevé, là. Je vous rappelle, c'est quoi qui s'est passé jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année. Le premier qui est survenu sur le territoire de la ville de Québec, c'est le 3 janvier. Un homme de 57 ans qui avait été attaqué dans un logement de la rue Saint-Charles puis qui était mort de ses blessures. Ensuite, le 7 février, souvenez-vous de l'histoire d'une dame dans la cinquantaine qui a été découverte à Val-Bélair dans sa résidence dans la rue de l'Esprit. Dans ce cas-ci, c'est son fils qui est accusé, qui est présentement en cours pour répondre à des accusations de meurtre. Le 16 février, il y a une dame de 49 ans qui a été agressée dans un immeuble sur la rue de la Concorde. C'était encore une fois son fils, un adolescent âgé de 17 ans. Donc, deux histoires familiales, encore une fois. Et le 6 avril, il y avait un homme de 69 ans qui avait été retrouvé dans une résidence de Limoilou. Dans tous les cas, on dit dans le Journal de Québec qu'il n'y a pas d'arme à feu qui est en cause. C'est souvent l'arme blanche. Et là, il y a le cinquième meurtre, celui dans Saint-Sauveur, hier, qui s'ajoute à cette triste liste. Donc, effectivement, c'est triste d'avoir cinq meurtres. Mais notez que dans plusieurs des cas, souvent, ça se passe soit dans une cellule familiale ou un appartement connu, dans des endroits un peu moins bien famés, là, très, très reclus. Donc, vraiment, c'est pas un endroit, un quartier ou quoi que ce soit. Ça rend pas la ville moins sécuritaire en tant que telle. Et ça, pour ça, on est chanceux à Québec de pas avoir de quartier chaud en tant que tel. Et que la plupart du temps, lorsqu'il y a des événements violents ou des meurtres qui surviennent, c'est entre personnes qui se connaissent. Il est 5h15, on prend une courte pause et au retour, on jase avec Dan Pou.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
C'est pour ça que je déteste le discours un peu alarmé, c'est catastrophiste, c'est co-anxieux, de tout est fini, les enfants vont mourir. On a changé! C'est l'enfer, les efforts qu'on fait. Arrêtez de m'en donner tout le temps, nous culpabiliser. Je me promène en masse dans les parcs à Québec, tout ça partout. C'est propre, les sentiers, c'est propre parce qu'on fait attention.
Oui.
Les gens sont sensibilisés.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Sylvain, tu vas pas me parler de Noël?
Absolument, Joanne. Il y a plein de gens qui veulent pas repasser un temps des fêtes dans une maison où l'air froid entre par les fenêtres.
Ah, je comprends où tu veux en venir. Tu veux dire à ces gens-là d'aller chez Solaris maintenant pour réserver leur date d'installation avant Noël.
C'est ça. Et chez Solaris, on achète directement du fabricant. On a donc un meilleur suivi et on économise gros.
Pas pour rien que Solaris installe les meilleures portes et fenêtres depuis plus de 45 ans.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
Paquet et fils, c'est plus que de l'huile à chauffage. C'est un service humain qui fait la renommée de l'entreprise depuis 115 ans. Demandez un prix sur paquetetfils.com, vous pourriez gagner 500$ en remplissage. Gagnez votre huile à chauffage sur paquetetfils.com pour un temps limité.
Vos lunettes à partir de 79$. La deuxième paire à 25% de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25%.
Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138$.
Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois en face de la gare d'autobus.
C'est le Festival de crevettes à la Casa Grec. Savourez une assiette de crevettes papillons servies avec sauce à l'ail et de succulents accompagnements pour seulement $15.95. Tous les jours, pour un temps limité, nos légendaires crevettes papillons pour $15.95. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à $5,000. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Cineos Health, pour un futur en santé.
Dès mercredi, chez Sportium, c'est le solde sous la tente. Économisez jusqu'à 60% sur plus de 10 000 morceaux de vêtements, 4 000 paires de chaussures et une vaste sélection d'équipements. Des rabais sur tout ce qui se trouve sous la tente et plus. Sportium, plus de choix, plus de conseils.
Adieu mazout, bonjour énergie renouvelable. Vous souhaitez convertir le système de chauffage de votre habitation par un système alimenté par une énergie renouvelable comme l'électricité? Avec son programme Chauffe et Vert, Transition énergétique Québec vous offre de l'aide financière pour le faire. Optez pour un système de chauffage plus efficace, plus sécuritaire, plus économique et qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Inscrivez-vous à chauffezvert.gouv.qc.ca et visez l'efficacité énergétique. Un message du gouvernement du Québec.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Pour se rapprocher de ses fournisseurs, le fabricant de sacs de plastique Polycar se construit une usine de 20 millions de dollars à Edmonton. L'entreprise de Ville-Saint-Laurent, où l'usine mère fonctionne 24 heures sur 24, entend doubler sa production de sacs qui, en Amérique, sont fabriqués à partir de gaz naturel et non de pétrole.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Avec Jean-Simon Buis, lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
Il est 5h19, bienvenue dans l'amorce en ce mardi 1er octobre 2019. On jette un coup d'œil à la météo. D'abord pour aujourd'hui, mardi, pluie intermittente toute la journée, des nuages avec 10 degrés au mercure, pas mal toute la journée. Demain, mercredi, quelques éclaircies, mais 40% de risque d'averse, toujours avec 10 degrés. Jeudi, on garde la tangente, 10 degrés avec alternance de soleil et de nuages. À plus long terme, ça regarde relativement bien pour la fin de la semaine et la fin de semaine. Vendredi, maximum de 12 avec des percées de soleil, 60% de risque d'averse. Et samedi, retour du soleil plein le ciel avec 13 degrés. Et pour le moment, c'est 9 degrés à Québec. Bon matin, Dan.
Salut, Jean-Simon.
C'est le début des séries dans le baseball majeur ce soir.
Honnêtement, le mois d'octobre, c'est le plus beau mois de l'année pour un tripeux de sport comme moi parce que tu as la saison de NFL qui est entamée depuis quelques semaines. Tu as le début de la saison de la Ligue nationale de hockey. Pour les tripeux de basket, on sait que les Raptors sont ici à Québec pour tenir leur camp d'entraînement. Ce sera aussi le début de la saison dans la NBA, mais les séries du baseball. Les séries du baseball, il n'y a rien de plus fun que ça. C'est que ça dure un mois, puis c'est au bout d'une saison de 162 matchs. Fait que 162 matchs, t'as beau aimer le baseball, là,
à un moment donné,
c'est long, t'as pas vu tous les matchs. Ouais. Mais en série, c'est le fun, c'est du bon calibre. Puis le baseball, à la télévision, c'est un sport qui est bien rendu. T'as l'impression que t'es assis dans le stade. Tu vois tout d'un match de baseball quand t'es à la télé. Puis le réseau Fox le fait très bien, de bonnes images. Puis, tu sais, il y a quelques années, on a lancé l'espèce de carré pour la zone des prises. Ouais. Tu sais, tu vois avec un écran tactile, ou pas un écran tactile, mais plus au numérique, tu vois la balle arriver. Finalement, tu dis, ah, l'arbitre a appelé une balle, mais elle est en dehors du
c'est
carré.
C'est la même chose que dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, si vous jouez à MLB ou ce jeu-là, là, vous avez exactement la même zone des prises que vous allez viser quand vous allez lancer.
C'est,
là,
fait
c'est
comme
la
ça,
même
chose.
C'est très, très fort.
Ouais. Ouais, puis le baseball, c'est bien le fun. Là, évidemment, il y a des matchs de meilleur deuxième. Depuis une dizaine d'années, on fait entrer en série les équipes 4 et 5 de chacune des ligues. Donc, ça débute ce soir, 20h08. Fouille-moi pourquoi c'est 20h08, mais c'est pas 8h, c'est pas 8h30, c'est à 20h08 qu'on débute le match. C'est les Nationals de Washington qui vont recevoir les Brewers de Milwaukee. Et demain, ce sera Tampa contre Oakland. Dès jeudi, on commence des séries 3-5. Et je sais pas quand, parce que l'horaire définitif est pas sorti, Jean-Simon. Là. Il y a une journée avec le décalage horaire. Il y a une journée dans les 10 prochains jours où on va avoir 4 matchs.
Ah oui.
Et ça, c'est fou raide. La même journée, t'as des matchs comme à 1h, 4h, 7h puis 10h.
Avec le maniaque de baseball qui a réussi à prendre congé, là, il y a toute une journée en perspective.
Là, il est content. Puis une petite note sur le Canadien qui va débuter jeudi sa saison en Caroline. Jeff Molson dit que d'ici maintenant jusqu'à 8 ans, le Canadien va être bon. C'est rendu ça sa ligne. Donc, il a acheté le plan de vente de Marc Bergevin. Il dit que dans les 8 prochaines années, quelque part là-dedans, le Canadien va être compétitif.
C'est un bon pronostic.
C'est encourageant.
Mais c'est que ça donne de la marge de manœuvre. Quand
c'est
même.
Ça! Exact, exact.
Merci, Dan.
À tantôt.
Salut, à tantôt. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin ce matin. Souvent, je commence avec le meilleur, mais là, j'ai décidé de garder le dessert parce que je trouvais ça trop bon puis je voulais prendre le temps un petit peu de vous en jaser. Vous savez que dans les derniers mois, la Société des traversiers du Québec a vécu pas mal de déboires avec le F.A. Gautier. Ça vous dit quelque chose, là, la traversée Matane, Bécomo, Godbout entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, là, puis vraiment, ça a fait couler énormément d'angle parce qu'il y a plusieurs traversiers qui se sont succédés pour relever le F.A. Gautier qui, là, est en réparation. Puis on sait pas trop quand est-ce que... Ça n'a pas de bon sens à quel point il y a eu des problèmes avec. Ça a coûté une fortune. Il a été en cale sèche ici à Lévis, à la Dévis. Ça arrête pas, cette saga-là. Et notamment, parmi les navires qu'on est allé chercher, il y en a un qui s'appelle le NM Apollo, qui était un vieux bateau datant de 1970, qui a coûté une fortune, qui rentrait tout le temps en collision avec les quais. Ça en était rendu une risée totale. Ben, la nouvelle que je vais vous donner, là, je ne l'invente pas. On va vraiment faire au Québec notre propre Titanic. Le NM Apollo, donc vieux bateau de 1970, qui va avoir pendant une vingtaine de jours servi à faire la traversée Matane-Bécomo-Godbout, va être coulé volontairement pour en faire un récif artificiel à Godbout. Et ça, tenez-vous bien, OK, parce que, bon, couler un navire, on a l'impression qu'il aurait pu le faire lui-même pendant qu'il était en service, à quantité de réparations qui sont arrivées. Mais ce qu'on va faire, c'est que la Société des traversiers du Québec va le vendre 1$ à la municipalité de Godbout et allonger 2 millions de dollars pour le couler et en faire un récif artificiel. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est un récif artificiel? C'est que ça va devenir une attraction pour les plongeurs sous-marins qui vont pouvoir aller à Godbout plonger et visiter l'épave du NM Apollo. C'est quelque chose pareil. Combien ça coûtait ça, le NM Apollo, au total? 3,5 millions d'argent public. 3,5 millions de dollars pour un navire qui va être coulé volontairement. Et c'est un peu amusant de lire les de lire les témoignages de la Société de la des traversiers du Québec et du maire de Godbout aussi. Le maire de Godbout qui dit « Nous sommes emballés à l'idée de donner une seconde vie à ce navire et d'en faire un levier de développement touristique économique. » c'est quelque chose pareil. C'est complètement surréaliste de réaliser qu'un bateau qui a été vraiment un fiasco total, qui a été terrible dans sa capacité de à faire son travail en quelque sorte, là, fait en sorte que maintenant on va se retrouver avec un navire coulé à coût de 2 millions de dollars au fond du fleuve. Je vais vous donner juste quelques faits par rapport à lui. Il avait été acheté d'urgence. Les coûts d'acquisition de mise aux normes s'étaient élevés, comme je vous l'avais dit, à 3,5 millions de dollars. Après deux collisions, des réparations totalisant 171 800 $ ont dû être effectuées. Et après moins d'une vingtaine de jours de service, on l'a accosté dans le port de Québec. Et ça coûte 55 000 $ par mois contribuable. Donc, ça coûte une fortune. Fait qu'à quelque part, on se dit c'est quasiment une bonne affaire. On va payer 2 millions, puis ça va arrêter de nous coûter de l'argent. Puis qui sait, ça va peut-être ramener de l'argent dans nos poches. Mais imaginez comment les plongeurs qui vont visiter ça, comment on va leur expliquer ça? Si tu visites une épave quelque part dans l'océan ou dans la mer des Caraïbes, tu sais, bon, il y a une histoire en arrière de ça, une tempête, quelque chose qui s'est passé. Là, nous autres, on va expliquer que c'est un fiasco gouvernemental qui a coûté des millions de dollars aux contribuables et qu'on a fini par couler volontairement. Toute une attraction touristique. Il est 5h26, merci d'avoir été là dans l'amorce dans quelques instants. C'est Bouchard en parle qui commence et nous, on se reparle demain matin dès 5h. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.